Trois quarts d'heure pour débattre autour de l'actualité de la semaine avec des journalistes. C'est le rendez-vous de la Tribune de la Presse que vous propose Radio Capi. Nous sommes vendredi 22 mai 2015 et voici le menu de nos débats. Les autorités du Congo-Brazzaville ont lancé une nouvelle phase concernant l'opération Bataille à Bakolo, entendez par là la gifle des aînés dans la ville de Pointe-Noire depuis le 14 mai 2015. Près de 300 ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville ont regagné Kinshasa depuis lundi dernier dans des conditions déplorables. Et puis la troisième phase du programme national de démobilisation, désarmement et réinsertion a été lancé officiellement le week-end dernier à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central et jeudi à la base militaire de Kamina au Katanga. Cette phase concerne 12 000 combattants issus de tous les groupes armés pour une période de 4 ans. Comment les journalistes ont-ils analysé ces deux grandes actualités de notre pays? Nous avons dans ce studio Alain Botoko, journaliste photo-reporter indépendant. Alain, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Élisée, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thierry Mukelekele, journaliste à Radio-Télévision Jedidia de Kambouvé au Katanga. Mais actuellement, vous êtes à Lubumbashi. C'est bien cela, Thierry?
Oui, je suis à Lubumbashi. Bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir à tous ceux-là qui suivent Radio Katanga.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de cette semaine avec vous, Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par cette nouvelle vague d'expulsion des Congolais de la RDC des Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Près de 300 ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville ont regagné Kinshasa depuis lundi dernier. Pas de leur propre gré, mais parce qu'expulsés, affirme Forum des As. L'ONG, la voix de son voix pour les droits de l'homme, a dans un communiqué manifesté de vives inquiétudes suite à la reprise de ces expulsions massives. La plupart d'entre eux viennent de d'Olizy ou de Pointe-Noire. Les conditions dans lesquelles ils ont été évacués sont déplorables, rapporte le journal. Après la première phase de cette opération lancée en avril 2014 à Brazzaville, c'est au tour de Pointe-Noire, deuxième ville du pays et capitale économique, d'accueillir la très critiquée opération policière dénommée Bataille à Bakolo, informe l'Observateur. Selon le journal, plus de 200 ressortissants de la RDC sont arrivés lundi 18 mai et mardi 19 mai à Kinshasa. Après avoir été amenés en train jusqu'à Brazzaville, ils ont ensuite été embarqués dans des canots rapides par petits groupes pour traverser le fleuve. Et le journal de préciser que Brazzaville minimise les accusations contre les violences qui entourent les expulsions de cette nouvelle phase de l'opération Bataille à Bakolo. Le Phare rappelle qu'au lendemain des expulsions massives caractérisées par des violences massives de droits de l'homme perpétrées sur des ressortissants congolais par des éléments de la police du Congo-Brazzaville en 2014, l'on avait constitué une commission mixte des deux gouvernements pour trouver des solutions adéquates afin que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. Depuis lors, c'est le silence radio. Voilà que les mêmes expulsions caractérisées par des actes de violence inhumaine se reproduisent sans émouvoir le moins du monde les autorités du Congo-Brazzaville. Changeons de chapitre pour parler de la troisième phase du programme national de démobilisation désarmement et réinsertion, phase qui concerne 12 000 combattants issus de tous les groupes armés pour une période de 4 ans. On peut lire sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, que ce programme est financé à hauteur de 85 millions de dollars américains par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires extérieurs et va couvrir une période de 4 ans. Le ministre de la Défense se dit satisfait des efforts financiers consentis par le gouvernement et les Nations Unies pour entamer ce programme, lequel devra aider les ex-combattants à retrouver une bonne vie civile dans de meilleures conditions. Au bout de 6 mois, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture devra former ses anciens combattants à des divers métiers de leur choix avant de les réintégrer dans leur milieu d'origine.
Dans l'actualité de cette semaine, on a noté aussi le conflit entre les Pygmées et les Bantous au Nord Katanga, des violences qui ont occasionné la mort de plus de 200 personnes en l'espace de 5 mois, plus de 100 villages incendiés et quelques 12 000 déplacés. C'est pour la population des news au centre seulement. Alors Alain Botoko, vous êtes journaliste photo-reporter indépendant. Comment vous avez analysé ce conflit?
Oui, mais ce conflit, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est un conflit longtemps. C'est depuis des années que nous vivons ensemble, nous Bantous et le Pygmée. Mais peut-être que ce conflit est sorti à la vie aussi de tout le monde parce qu'il y a une crise d'autorité de l'État dans ce contrée. Hein, et maintenant, le compte, chacun cherche à régler le compte à l'autre. Mais l'élément que je vais souligner, c'est que nous devons connaître notre histoire. Le peuple autochtone, le Pygmée sont les premiers occupants du Congo. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce peuple? Depuis que nous sommes indépendants, quelles sont les structures que nous avons mises pour que ce peuple sorte de la situation de la misère, de la situation dramatique qu'elle est en train de vivre? Et c'est un peuple qui ne s'habille normalement pas, c'est un peuple qui...
Un peuple délaissé.
Délaissé à lui-même, et pourtant il a le même droit que vous et moi, parce que la Constitution dit que le Congolais doit être protégé partout où il est. Et donc, moi, j'appelle à la conscience de tous les Congolais de prendre cette réalité qui nous colle dans la peau et traiter ce problème avec beaucoup de délicatesse parce que c'est la vie de tout un peuple qui est mis en jeu. Et je propose même qu'il y ait des lois qui protègent ce peuple parce que la minorité doit être protégée.
D'accord. Okay. Alors, Élisée, Alain propose qu'il y ait une loi pour protéger ces peuples qui sont minoritaires. Quel est votre commentaire, votre analyse?
Je suis tout à fait d'accord qu'il faut protéger les minorités. Je crois qu'on a quand même sous-estimé ce conflit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que ça s'est accru. Et je crois que nos autorités traitent un peu avec une certaine légèreté ces genres de conflits. On attend que ça s'amplifie pour qu'on puisse prendre à bras le corps l'ampleur de la chose. Et je crois que c'est vrai, il faut qu'on protège les minorités. Mais pour cela, il faut qu'on arrête avec des actions de façade. Tout récemment, on a vu le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur aller là-bas. Et nous, en tant que journalistes, on a filmé en disant oui, on a fumé le calumet de la paix entre le Pygmée qui n'est du reste pas le premier calumet de la paix qu'on fume de ce côté-là. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec ces telles actions. Il faut aller traiter le fond du problème. Le fond du problème, il est là. C'est cette minorité qui se sent marginalisée. Que faire pour essayer de les intégrer? Que faire pour permettre à ces Pygmées d'intégrer leurs enfants dans la société, dans les écoles, bénéficier de certains droits? Et je crois que c'est ça le fond du problème. Il faut qu'on arrête avec des actions qui montrent juste qu'on a fait, mais le fond du problème reste toujours là et on n'a rien résolu. Il faudrait tenir compte des minorités et traiter le problème de fond.
Il faut tenir compte des minorités et traiter le fond du problème. Alors Thierry Mukele, quel est certains politiques locaux disent que les Pygmées sont instrumentalisés. Quelle est votre lecture?
Bien, merci. Je voudrais d'abord rebondir sur les propos de Alain et les propos de la consoeur tout à l'heure.
Élisée.
Oui, Élisée, merci. Il y a des bonnes raisons que, en tant que journaliste, analyste, et quand nous réfléchissons, nous comprenons que la défense nationale est déjà mise à mal. Et comme la défense nationale est mise à mal, c'est-à-dire le chef de l'État devra ouvrir l'œil le bon. Parce qu'à l'allure où vont les choses, l'instrumentalisation ne provient que de celui-là à qui on a confié la mission de gérer la défense nationale, la sécurité. Parce que si un conflit quitte une communauté et commence à embraser tout un territoire, c'est-à-dire déjà là, il y a non pas seulement naissance des mouvements pro-insurrectionnels, il y a naissance d'une désobéissance des populations vis-à-vis de l'autorité établie. N'oubliez pas que Anyouz, c'est un territoire et il y a un administrateur des territoires qui a tous les services. Quand vous suivez la chronologie de l'histoire, l'administrateur des territoires n'apparaît nulle part. Ce sont les autorités de Kinshasa qui quittent Kinshasa pour venir fumer le calumet de la paix dans un territoire et on n'atteint pas l'endroit où le conflit a éclaté. C'est-à-dire que la question n'est pas traitée avec efficience.
Donc vous rejoignez carrément les propos de Élisée et même Alain qui disent qu'il faut vraiment traiter le problème dans le fond.
Oui, il faut traiter le problème dans le fond. Qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de la défense nationale? Parce que sur le plan du protocole sécuritaire, dans tous les pays du monde, c'est le président de la République qui est le premier consommateur du renseignement, que ce soit le renseignement civil ou militaire. Et c'est lui qui a une décision. Mais quand vous voyez même le problème des pygmées, que ce soit même le problème dans le nord Katanga avec le phénomène Bakata Katanga, le président de la République ne consomme pas l'information à la source.
D'accord. L'autre actualité de cette semaine, c'est le dialogue que sollicite le président de la République auprès de l'opposition congolaise, qui ne parle pas le même langage d'ailleurs. La nouvelle donne, c'est la sortie médiatique de Clément Kankou, président du Mouvement pour le Renouveau MR, qui a sollicité un dialogue au sein de l'opposition avant de rencontrer le président de la République. Quelle lecture vous faites de cette proposition de Clément Kankou, Élisée Audien?
Je dis déjà avec Clément Kankou, l'initiative n'est pas la première. Je crois qu'il a eu à lancer très récemment une autre initiative visant à rassembler toute l'opposition, mais on ne sait pas où est-ce que ça aboutit. C'est aussi ça le problème. C'est bien beau de lancer des idées comme ça, mais il faudra encore mettre les moyens pour arriver à finaliser. C'est une bonne chose, l'unité de l'opposition. Et je crois d'ailleurs que le pays a besoin de ça. Encore faudra-t-il trouver des mécanismes susceptibles de réunir. Mais je me dis, l'unité, c'est un peu complexe. Quand on dit l'unité, il faut tous penser de la même façon. Il faut que tous les opposants...
Avoir la même vision.
La même vision. Et encore, quand on connaît... On entre ici, je vous ai trouvé en train de débattre autour des différents projets de société. Je me dis, mais ils ont des projets de société différents quand ils parlent de l'unité. C'est sur leur projet de société, sur leur vision. Par rapport à quoi? Par rapport, il y a beaucoup de choses à faire. Le dialogue, par rapport à ça, l'unité de l'opposition, on en a besoin. Mais eux-mêmes, ils disent, elles-mêmes, je parle de l'opposition, et parlent d'une unité dans la diversité. C'est aussi un autre terme qui revient souvent. L'unité dans la pluralité. Il reste maintenant à savoir de quelle unité l'opposition a besoin pour parler d'une seule voix, pour aller ou pas à ce dialogue tant réclamé ou demandé ce jour par le président de la République.
D'accord. Alors, Alain Botoko, est-ce que le dialogue s'impose au sein de l'opposition avant de rencontrer le président de la République?
Le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas le dialogue entre les opposants. Le dialogue doit être entre les opposants et la majorité présidentielle, mais aussi la communauté internationale. Vous êtes sans ignorer que les élections de 2011 ont été chaotiques, et tout le monde a décrié. Et la suite, c'est quoi? C'était que il y a eu une gestion du pays avec beaucoup de doutes et les choses n'ont pas si marché. C'est pour cette raison que la communauté internationale a imposé dans les accords d'Addis Abeba, mais aussi dans la résolution 28, si je ne me trompe pas, a imposé un dialogue entre les Congolais et c'est là qu'il faut sûrement insister. Et ce dialogue, moi, je l'ai toujours dit, je me dis, qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Pour que les hommes et les femmes du reste du monde nous prennent au sérieux, il faut que nous sachions ce que nous voulons et ce que nous voulons faire pour ce pays, pour demain et après-demain. Les gens aujourd'hui sont en train de dire qu'on ne peut pas dialoguer. Et si on ne peut pas dialoguer, c'est-à-dire que nous allons retomber sur les choses que nous avons vécues en janvier. Il y aurait de morts, il y aurait de cassures. À ce moment-là, qui va payer le plus? C'est la pauvre population.
D'accord. Alors, on va donner la parole rapidement à Thierry Mukele-Kele. Quelle est votre lecture par rapport à cette sortie médiatique de Clément Kankou? Rapidement, parce qu'on va entrer déjà dans notre premier thème de la soirée.
Oui, d'accord. Mais comme l'a dit tout à l'heure la consoeur, Clément Kankou, ce n'est pas la première fois. Mais là où je ne comprends toujours pas l'opposition, depuis bientôt deux mandats, nous n'avons pas une opposition institutionnelle, jusqu'alors. Parce que la Constitution prévoit le représentant, le porte-parole de l'opposition, qui n'existe toujours pas. C'est là où le bât blesse. Alors, le chef de l'État devra s'entretenir avec une opposition plurielle, et puis la conséquence, c'est quoi? Le désordre de l'opposition va nous amener à la perte de temps, et aujourd'hui, il nous reste presque 457 jours pour convoquer les présidentielles de 2016. À cette allure, sommes-nous sûrs que dans les 450 jours qui nous restent, serions-nous capables d'organiser un forum qui nous amènerait à une table et à nous amener jusqu'à respecter le calendrier électoral? Je ne pense pas. Il ne faudrait pas que ces gens
continuent à endormir la population. Ils doivent dire la vérité à la population. Clima Kankou, c'est une bonne chose, mais vous voyez la position radicale de l'UDPS. L'UDPS va directement au dialogue, avec ou sans les autres. Donc là, il y a déjà un problème.
Nous voici rentrés dans notre premier thème de la soirée qui concerne l'opération Mbatha à Bakolo. On pensait ces événements totalement finis, mais voilà que les expulsions des Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazzaville reprennent de plus belle après juste un bref moment d'accalmie. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas des Congolais vivant dans la capitale qui sont expulsés, mais plutôt ceux vivant à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo-Brazzaville. Radio Kapi a assisté à la vague de ces arrivées jeudi, une centaine au poste frontalier du Bitsungobila à Kinshasa, un peu comme des vagues précédentes, ces retournés parlent eux aussi des brutalités. Donamadi Mambaya était témoin.
Ils s'arrachent presque tous les uns les autres la parole pour nous apporter leur calvaire.
Moi, on m'a rappelé sur le chemin du boulot. Moi, ce qui me concerne, on m'a rappelé à mon lieu de travail au marché.
Ils sont surtout des jeunes hommes, coiffeurs, manutentionnaires, bref, faisant de petits métiers.
Moi, je suis boucher. Moi, je suis maître peintre.
Mais aussi des quadragénaires et pères de famille.
J'ai 42 ans.
Ils sont enfin arrivés à Kinshasa, expulsés de Pointe-Noire, deuxième ville du Congo-Brazzaville, dans le cadre de l'opération d'expulsion des sans-papiers dans ce pays qui, selon des informations reçues, touche désormais Pointe-Noire. Mais selon ces refoulés congolais, ces expulsions continuent d'être brutales et à causer de nombreux morts.
On était détenus dans de très mauvaises conditions. Il y avait de l'étouffement et j'ai vu au moins 7 personnes mourir. Moi, par contre, j'en ai vu 6.
Ils racontent surtout avoir tout perdu, parfois même leur famille.
Je suis désormais séparé de ma femme et de mes deux enfants qui, eux, sont restés au Congo.
La vague de Pointe-Noire a commencé depuis quelques jours déjà. Et à ce stade, les témoignages rapportent au moins une centaine de Congolais expulsés du Congo voisin chaque jour.
Merci Donna Madimba. Je rappelle que je reçois dans ce studio Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, Alain Botoko, journaliste photoreporter indépendant, et Thierry Mukeleke, les journalistes à la radio-télévision Jedidia du Cambo Vyokatonga et qui intervient au téléphone à partir de Lubumbashi. Alors, Élisée Odia, est-ce que vous comprenez cette nouvelle vague de Mbatha à Bakolo?
Je préfère me poser une série de questions. Où est-ce qu'on en est, par exemple, avec la commission mixte mise en place après la première vague d'expulsion qu'on a constatée il y a un peu plus d'une année de cela? Je me pose des questions. Il n'y a pas ce suivi-là. Où est-ce qu'on en est? On a essayé de nous donner des actions médiatiques, mais le fond, comme je l'ai dit, par rapport à la situation avec les Pygmées, on ne l'a pas traité. Une autre question, c'est la réaction un peu fébrile du gouvernement congolais, il faut qu'on se le dise. Avant, on n'avait pas un vice-ministère des Congolais de l'étranger. C'est vrai que l'actuel a réagi, mais c'est un peu une réaction molle par rapport à ce qui se passe. Et je me dis, quand il est arrivé, je crois que son rôle, c'était justement d'aller vers ce Congolais-là, de l'étranger. Je crois que ça devrait être sa priorité, essayer de les organiser, essayer de parler avec eux, d'échanger avec eux, de connaître leurs problèmes et de mettre en place le mécanisme susceptible de ne pas subir ce qu'on a subi au Congo-Brazzaville, mais ce qu'on vient de subir tout récemment en Afrique du Sud. De ce côté-là, il y a quand même cette fébrilité. Je me dis, il faut relancer. Qu'on nous dise où est-ce qu'on en est avec l'enquête mise en place par la commission mixte qu'on a vue ici se réunir et tout.
Plusieurs fois d'ailleurs.
Plusieurs fois, mais également, quelle est la politique du gouvernement par rapport aux Congolais de l'étranger?
Donc vous avez une série de questions que vous posez.
Qui restent jusque-là sans réponse et moi ça m'attriste par rapport à ça.
D'accord. Alors Alain, est-ce que vous partagez le nombre de questions que se pose Élisée?
Même un peu plus que ça. J'ai encore plus d'autres questions qu'Élisée. Mais je voulais qu'on ait une idée générale sur ce qui se passe, comment le monde est géré. Actuellement, dans le monde, au 21e siècle, ce sont des regroupements, des réunions de pays, des regroupements de pays, l'Union européenne, l'Union d'Asie, le pays de l'Afrique de l'Est, le pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, moi, je ne comprends pas qu'il y ait des problèmes entre le pays qui sont voisins, et nous sommes voisins de plus de 1000 kilomètres, séparés par le fleuve. En réalité, ce n'est pas une séparation, nous sommes presque un même pays, et nous sommes le deux capitales le plus proche du monde. Mais il y a eu cette vague de refoulés depuis l'année passée, et c'était plus de 130 000 personnes. qui sont devenus ces hommes, ces femmes ici à Kinshasa? On ne sait même pas les localiser. Certains sont dans des places où ils ne savent pas trouver à manger, ils ne savent pas trouver l'eau à boire. Et on continue à renvoyer encore d'autres de là où ils sont. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre.
Mais en même temps, il faut dire que Brazzaville affirme qu'il lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous pensez que les Congolais de Kinshasa vont à Brazzaville clandestinement?
Il faut qu'ils prouvent cela, parce qu'en fait, il y a quelques temps passés, pour traverser à Brazzaville, on n'avait pas besoin de visa, on n'avait pas besoin du passeport. Mm-hmm. On pouvait traverser comme si on partait derrière votre maison et rentrer. Alors, ces hommes, ces femmes qui sont entrés dans ces conditions-là, il ne faut pas tout de suite les collègues qui sont entrés illégalement. Mais le gros du problème, c'est celui de la considération humaine, des droits humains qu'il faut que Brazzaville revoie dans ses pratiques.
D'accord. Thierry, vous avez suivi aussi cette actualité. Comment vous analysez finalement cette question de Mbate Abakolo?
Il y a une politique que le gouvernement, je crois, a déjà compris, mais par rapport à ça, notre gouvernement n'arrive pas à réagir. Nous sommes dans un concert des pays où les mandats de tous les présidents touchent à leur fin. Mais entre nous, c'est-à-dire la RDC et le Congo-Brazza, chez nous, le chef de l'État ne s'est jamais prononcé sur cette question de la fin de son mandat. Mais de l'autre côté, le président a dit clairement qu'il continuait. Or, quand vous voyez le comportement du Congolais de Kinshasa, ce comportement influe sur le comportement du Congolais de Brazzaville. C'est-à-dire que le président brazzavillois n'a pas besoin d'un peuple qui intoxique son peuple par rapport à une réalité politique. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Le gouvernement congolais de la RDC sera incapable aussi longtemps que la RDC est dans une autre voie politique en ce qui concerne les fins mandats présidentiels, tandis que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Congo-Brazza, tous ces présidents-là, l'Angola, tous ces présidents sont dans des mandats qui iront au-delà de leur mandat, le problème va demeurer. Suivez très bien, les bulletins sécuritaires entre la République démocratique du Congo et la République sœur de Congo-Brazza. Ça fait deux comportements des deux populations différentes. Or, quand les Kinois traversent, c'est à peu près 100 Kinois qui traversent vers Brazza. Mais quand les Brazzavillois traversent, c'est moins de 30. Donc c'est juste une évaluation pour donner un peu une idée. Et voyez si 100 Kinois entrent au Congo-Brazza, quelle est l'influence politique que ces 100 Kinois peuvent mener?
Alors Thierry, alors donc, si je dois bien vous comprendre, vous pensez que Brazzaville est devenu un Eldorado pour les Kinois qui immigrent là-bas?
Oui, pour les Kinois, c'est un Eldorado. Mais pour le Brazzavillois, pratiquement la politique de Brazzaville, les Kinois ont un comportement tel que ça peut influer sur les Brazzavillois. Et ça, le gouvernement de Brazzaville ne veut pas. Mais officiellement, ils ne peuvent pas déclarer ça.
D'accord.
Ça, alors, ce sont des choses qui se jouent sous les tables.
D'accord. Alors, on va redonner la parole à Élisée Audia. Vous allez aussi nous dire, vous avez évoqué dans vos dires qu'on sent une certaine fébrilité de la part de notre gouvernement. Qu'est-ce qui doit être fait finalement? Tout en réagissant aux propos de vos précédents.
Mais qu'on arrête d'abord de subir et de prendre d'avance et d'agir.
Ça veut dire qu'on arrête de subir.
Qu'on arrête de subir et d'attendre de réagir alors qu'il y a des actions qui se font de l'autre côté. Je crois qu'on nous avait donné largement le temps.
Donc vous pensez que nous aussi on doit chasser les Congolais?
Même, non, quand je parle d'agir, ce n'est pas chasser forcément. C'est essayer d'organiser les Congolais. Essayer de parler avec eux, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais je voulais rebondir pour dire que le Congolais influe. Rebondir un peu à ce que l'ami de Lubumbashi vient de dire. C'est vrai que le Congolais de Kinshasa peut influer sur le Congolais de Brazzaville, mais ils n'ont même pas besoin de traverser là-bas pour influer. Vous êtes sans ignorer que ce monde est devenu un village planétaire.
Bien
pas
sûr.
Besoin de se déplacer pour influer sur le comportement des uns et des autres. On a ici combien 60 chaînes de télévision, autant de radios qui sont également suivies de l'autre côté. Donc les Congolais de Brazzaville peuvent éventuellement se braquer sur une télé de la place ici et se rendre compte de comment les choses se passent ici.
Mais la question, qu'est-ce qui doit être fait par le, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire si vous devez proposer au gouvernement?
Moi, je lui demanderais d'aller au contact de cette population-là à l'extérieur, leur demander de se plier, parce qu'il ne faut pas interdire aux Brazzavillois d'expulser, ils sont sur leur territoire, même s'il faut décrier la manière dont ces expulsions se font. Mais il faut aller organiser. Le problème, il ne faut pas qu'on se leurre. La plupart des Congolais de Kinshasa ont très mauvaise réputation à l'extérieur du pays. Et d'un côté, c'est parce qu'on n'est pas organisé, on n'est pas structuré. Et je crois que c'est ça le rôle du gouvernement, essayer d'organiser, leur demander, vous voulez rester ici, il faut vous plier. Comme ça, vous. Mais ce qui est sûr également, c'est l'expulsion. D'aucuns vous diront qu'ils ont fait 20 ans, 30 ans. On peut être 30 ans et être clandestin dans un pays étranger. Ça fait quand même aussi bizarre. Mais je crois que le gouvernement doit cesser de subir, agir. Je ne dis pas expulser automatiquement. Mm-hmm. On peut expulser s'ils sont en situation irrégulière ici. Mais il faudrait que le gouvernement adopte une approche pédagogique, parle avec ce Congolais. Vous voulez travailler, vous voulez rester dans un pays, essayez de vous plier aux règles et aux droits, aux règles, je ne sais pas moi, qui réglementent ce pays-là, et essayez de vous mettre en ordre par rapport à ça.
D'accord. Alors, Alain Boutoukou, dites-nous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire finalement?
Mais il y a un principe diplomatique qui dit qu'il faut la réciprocité. Ça, c'est un principe acquis pour tous les États. Quand on marche sur ton peuple, quand on tue ton peuple, quand on menace ton peuple, vous n'avez pas de choix que de prendre des dispositions pour pouvoir non pas frapper, non pas tuer, mais expulser, par exemple, faire refouler certains Brazzavillois. Ça serait un bon signe et ça encouragerait le Kinois, les Congolais qui sont ici pour dire au moins nous avons les responsables qui tiennent compte de nous. Mais je voudrais aller un peu plus en profondeur dans cette situation qui se répète et qui n'est pas si bonne. La profondeur, c'est celle-ci. C'est comparer les deux nations. Nous sommes ici à RDC à près de 77 millions d'habitants et dans un territoire de
2 345 000 km².
Justement. Et de l'autre côté, ils sont à 4 500 habitants. Et ils sont probablement 4 ou 5 fois plus petits que notre étendue. Alors vous comprenez que ça ne peut que poser des problèmes entre ces deux nations. Donc il y a vraiment une différence dans la démographie, dans la géographie. Mais cela ne dit pas que les autorités de Brazzaville doivent traiter les gens d'ici parce que nous sommes nombreux, parce que nous n'avons pas tout ce qu'il faut dans ce pays, et nous traiter comme si nous étions des bêtes.
D'accord. Alors votre piste de solution. Élisée a proposé un dialogue et vous proposez quoi?
Mais la piste de solution, elle est si simple pour moi. Revoyez l'index IME de l'année passée. Il dit ceci, il dit que entre nous et Brazzaville, c'est un écart, entre le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa, un écart énorme. C'est-à-dire que et les spécialistes d'économie ont dit ceci, que un Congolais d'ici pèse 84 Congolais de l'autre côté.
D'accord.
Donc c'est-à-dire que nous devons travailler pour pouvoir booster notre économie, pas en criant les macroéconomies, en donnant des chiffres qui ne collent pas, mais en travaillant pour que les gens mangent dans ce pays, pour que les gens travaillent dans ce pays, pour que les gens ne se déplacent plus jamais pour aller ailleurs.
D'accord.
Dans ce petit pays.
Alors on va rentrer à Lubumbashi avec Thierry Mukelekele. Quelle est selon vous la piste de solution?
Bien, d'abord je voulais rebondir sur Alain. Je ne pense pas la réciprocité, même si nous sommes dans les relations internationales. Parce que même sur le plan international, le Congo, RDC sera condamné que le Congo Brazza. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation. La République du Congo est moins en superficie que la province du Katanga. Ce qui veut dire, si Kinshasa est déjà au-delà de 15 millions d'habitants, y compris les étrangers, si nous osons faire la réciprocité, ça dit qu'on risquerait de toucher à plusieurs nationalités qui vivent en République démocratique.
D'accord. Quelle est votre piste de solution maintenant?
La voie est politique. Mm-hmm. La voie est politique. C'est-à-dire, Christophe Mouzoungou qui est là, devra sensibiliser que la politique de chez nous ne concerne pas les autres pays. Sensibiliser les Congolais qui vivent là-bas, lui en tant qu'ambassadeur représentant, c'est d'écouter ce qui se passe chez nous et de se limiter à ce qui se passe chez nous, de ne pas s'impliquer dans les politiques qui se passent ailleurs.
D'accord.
Je reviens en disant ceci. Le Congolais de la RDC influe sur le Congolais. Suivez un peu les chaînes de télévision de la RDC que nous captons à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, et les chaînes de Brazza. Faites un peu un sondage si les chaînes de la RDC passent au Congo-Brazza. Là, il y a un contrôle strict. Il y a des émissions qui se passent chez nous qui ne sont pas captées là-bas. Mais tandis que toutes leurs chaînes, nous les captons à Kinshasa.
Voilà. Je vois déjà dans ce studio, il y a Élisée et Alain qui ne sont pas du tout d'accord. Mais bon, rapidement, parce qu'on doit aller dans notre deuxième thème de la soirée. Un dernier mot pour conclure sur ce premier thème, Thierry.
Bien, ce premier thème, je dis seulement que le gouvernement de la RD Congo doit revenir d'abord en tant que gouvernement et réellement privilégier ses relations internationales en gardant la grandeur du pays, en retournant comme on a été pour la première fois et en demandant aux voisins que nos populations qui vivent chez vous n'ont rien à voir avec votre politique.
D'accord.
Il faut être clair.
Okay.
Et sécuriser nos populations parce que nous sécurisons nos populations.
D'accord, donc ça veut dire qu'il faut encore une fois le dialogue, comme l'a souligné Élisée et Alain Botoko. Voilà qui nous fait, qui nous
le
amène.
Dialogue, voilà.
Voilà qui nous ramène dans le deuxième thème de la soirée qui concerne le lancement du processus DDR. Il a été lancé jeudi à la base militaire de Kamina. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense. Ce programme est financé à hauteur de 85 millions de dollars américains par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires extérieurs et va couvrir une période de 4 ans. Le DDR-3 a débuté donc jeudi avec plus de 1700 ex-combattants candidats à la réinsertion. Askazigbia y était.
C'est à l'esplanade du bâtiment administratif de la base militaire de Kamina que s'est déroulé le lancement du plan global de DDR-3. D'après le commandant de cette base militaire, au départ, son site avait identifié 2064 ex-combattants qui se sont rendus au FRDC depuis mars 2014. 5 de ces ex-combattants sont malheureusement décédés et 8 autres ont déserté, a-t-il confirmé. À cela s'ajoutent 315 enfants soldats qui ont été récupérés par l'UNICEF. Au jour du lancement du DDR-3, les sites de base Kamina hébergent 1739 ex-combattants issus des 18 groupes armés, entre autres APCLS, FRPI et M23. Les ministres de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, se disent satisfaits des efforts financiers que le gouvernement et les Nations Unies ont consentis pour entamer ce programme. Un programme qui devra aider ces ex-combattants à se démobiliser pour retrouver une vie civile dans de meilleures conditions. Sachez qu'au bout des 6 mois, le FAO va de son côté former ses ex-combattants à des divers métiers de leur choix avant de réintégrer leur milieu d'origine. Depuis la base militaire de Kamina, à 15 de Tayoro, Radio Okapi.
Et je rappelle que la semaine dernière, la même opération a été lancée à la base de Kitona au Congo central. Thierry Mukelekele, vous êtes à Lubumbashi. Quel bilan dressez-vous des deux premières phases du programme DDR?
Bien, il y a, c'est dommage un peu parce que les deux phases de DDR pour le Katanga, ça n'a jamais réussi. C'est pourquoi il y a encore des mouvements de va-et-vient dans le nord Katanga. Bon, nous espérons, écoutez d'abord le montant, 85 millions. Est-ce que ceux-là qui sont concernés par ce programme sont-ils intéressés par les 1700 combattants ou par le montant? Quel est le travail qui sera fait sur terrain? Parce qu'aujourd'hui, les mêmes jeunes gens qu'on retrouve tout au long des carrières et des carrés miniers dans l'interland du Katanga, ce sont les mêmes gens qu'on a chassés dans les carrières et ce sont les mêmes gens qui reprennent encore les armes. Alors, est-ce que ce processus va vraiment orienter ces 1700 majoritairement, apparemment, ils viennent de l'Est. Va-t-on les orienter comment? On les traite à Kamina, on les retourne à l'Est.
seuils de Kitona, on les traite à Kitona, on les retourne au Katanga, ça dit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien explicité. Et les 6 mois de travail avec FAO, comment ça va se passer? En attendant, le même gouvernement a lancé le recrutement des jeunes dans l'armée. Et pendant ce temps, on renvoie encore des jeunes qui avaient déjà pris les armes à la vie civile.
Alors Thierry, est-ce qu'on peut parler... Oui Thierry, est-ce qu'on peut parler de la réussite ou de l'échec de cette opération?
Non, il y a échec.
D'accord.
Il y a échec parce que à Kitona, je suis par là, à Kitona, il y a 700 qui sont venus du Katanga. Il y a eu 2 défaits et 4 blessés qui se font soigner. Mais ils doivent être intégrés directement dans l'armée.
D'accord.
On va les amener à la vie civile et puis demander encore aux jeunes d'entrer dans l'armée.
Ok, d'accord. Alors, Élisée, comment vous analysez finalement cette opération DDR?
Je me dis que tiens, c'est une bonne chose qu'il y ait cette opération, cette troisième phase. C'est au moins là une preuve que le gouvernement tient à s'assurer que la sécurité du pays est dans les bonnes voies, contrairement à ce que certaines personnes voulaient faire croire, je n'entre pas dans la polémique. Mais le gouvernement, là, tient à prouver que non, il tient à assurer, il tient à sécuriser sa population au travers de cette opération.
Mais est-ce qu'il y aurait une différence avec les précédentes opérations?
Ça, je me dis, j'espère qu'il y aura un changement dans la méthodologie, parce qu'il ne faut pas... Mais il y a aussi un problème. Il y a d'un côté un désarmement et de l'autre, il y a réarmement. C'est difficile. Il ne faut pas qu'il y ait troisième, quatrième, parce qu'il y en aura autant tant qu'il y aura de l'autre côté des gens qui vont être toujours réarmés quelque part. Voilà pourquoi je reviens encore ce que je dis tout au début de cette émission, qu'on arrête de traiter des problèmes en amont. Ce problème doit être traité, j'allais dire pas en amont, c'est-à-dire en aval. On doit traiter le problème en amont, c'est-à-dire le début, c'est quoi le problème? Pourquoi il y a des gens qu'on arme?
Se poser autant de questions.
Mais pas seulement se poser des questions, mais apporter des solutions par rapport à ça, pour qu'on n'ait pas autant de phases de désarmement, parce que, comme je l'ai dit, tant qu'il y a ces désarmements en troisième phase, il y a d'un côté des gens qui sont instrumentalisés, des gens à qui on donne des armes, des gens à qui on est en train de réarmer, parce qu'à un moment, il y aura quatrième phase, cinquième phase, parce que non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin assez qu'on puisse résoudre une bonne fois pour toutes le problème de réarmement, de problème des enfants à rôler, pour qu'on n'ait plus à subir ces gens en troisième phase de désarmement. Mais en soi, c'est une bonne chose, peut-être changer au niveau de la méthode, montrer aux gens, parce que moi, franchement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là qui ont été désarmés ou réinsérés dans la société dans les 2 précédentes phases.
Est-ce qu'on entend parler d'eux? C'est la question que je veux poser aussi à Alain.
Mais il y a un problème de suivi et de planification dans notre pays, d'évaluation aussi. Mais au-delà de ce que ma conseillère a parlé tout à l'heure, mais aussi ce que Thierry a parlé de l'autre côté, nous devons prendre au sérieux notre situation dans le pays. La situation est laquelle? C'est que la communauté internationale débourse au moins à peu près 3 milliards de dollars par an pour sécuriser le Congo, pour chercher à coller le morceau du Congo. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous voulons pour demain?
Mais Thierry, comment plutôt, Alain, est-ce que 85 millions de dollars pour ce programme de désarmement est suffisant selon vous?
Mais durant 4 ans, 85 millions de dollars, ça ne représente pas grand-chose. Et c'est là que je me pose, c'est que nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays demain? Quelle est la planification pour notre armée? Nous devons avoir une armée de combien de personnes, d'hommes et de femmes. Et cette armée-là, en temps de paix, elle doit faire quoi? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et trouver des réponses pour faire avancer notre pays. Parce que jusqu'à quand on continuera à être assisté par les autres? Et la grande question qu'il faut poser aussi, c'est celle-ci. C'est que depuis que ces opérations ont commencé, les DDR, si je me trompe pas, c'est vers les années 2004. Combien d'argent nous avons dépensé? Donc, combien d'argent nous avons dépensé pour ces opérations? Et qu'est-ce que ça nous a rapporté dans la suite? Qui est-ce qui sont devenus ceux qui ont été démobilisés? Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont intégré l'armée? C'est ça le grande question qu'il faut se poser.
D'accord. Alors, on va finir par cette question. Je vais commencer avec Thierry qui est là-bas au Katanga. Quelle chance vous donnez à cette troisième phase de DDR? Ce sera aussi votre conclusion.
Cette phase ne peut réussir que si le chef de l'État lui-même s'impliquait. Parce que les deux phases ont échoué, est-il que lui a fait confiance dans l'exercice de ses collaborateurs? Nous, ici au Katanga, nous avons confiance que ça peut réussir. Mais cette fois-ci, que lui, le chef de l'État, s'implique dans la chose. Parce que le mercantilisme autour de cet aspect de choses est devenu flou. C'est comme ça que je vous expliquais. À Kitona, il y a des jeunes qu'on a enfermés, ça fait presque 16 mois. On veut les démobiliser. Pendant qu'on les démobilise, on lance une campagne pour recruter des jeunes. Et à Kamina, ce sont des jeunes qui étaient à l'est du pays, qu'on veut démobiliser. Pour les retourner à l'est ou pour quoi en faire? En entendant, à l'est, on a encore besoin d'une jeunesse pour intégrer dans l'armée. On veut quelque chose et son contraire. Ce qui veut dire que le chef de l'État doit ouvrir l'œil le bon pour ne pas se retrouver dans le même cycle de violence. Je vous ai parlé de l'interland minier. On a chassé plusieurs milliers de jeunes gens dans les carrés miniers. Mmh. Et ces jeunes gens tous réintègrent les mouvements de Gédéon, les mouvements de ceci. Ça dit que nous retournerons encore après avoir arrêté encore 500
D'accord.
ou 1000 à un autre processus DDR4, comme l'a dit la consoeur.
D'accord. Donc pour vous, il faut que le chef de l'État puisse s'impliquer personnellement pour réussir finalement cette troisième phase. Alain Botoko.
Mais Thierry, pour voir clair Thierry, dans cette histoire.
C'est, d'accord.
Thierry est en train de nous faire retourner à la dictature que nous avons tous décriée de Mobutu, où c'est Mobutu qui gère celle et actuellement il veut dire que Kabila gère celle et qu'il contrôle tout. Non.
Non, il veut dire qu'il faut que le président s'implique dans cette opération.
Non, mais le président, en fait, il y a un ministre de la Défense qui doit s'impliquer dans ça. Il y a les services de la Défense qui doivent s'impliquer dans cette opération. Mais je voulais bondir surtout à cet élément qu'il venait de conclure. Et il dit de cette crise qui se passe dans des carrières, dans des mines. Mais cette crise, c'est ça en réalité le vrai problème que nous connaissons, la crise que nous connaissons au Congo. Les ressources sont limitées et les gens cherchent à avoir ces ressources. Pourtant, c'est limité et tout le monde cherche à prendre les armes probablement pour pouvoir se venger et chercher qu'est-ce qu'il doit faire pour survivre.
Et donc, votre conclusion?
Oui, j'ai conclu pour dire ceci, que nous devons prendre les choses au sérieux, gérer une nation, intervenir après 10 ans, 20 ans, 50 ans. Qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures dans ce domaine-là de l'armée, mais aussi sur la gestion de tout notre peuple, et par extension, ceux qui sont de l'autre côté du Congo-Brazzaville.
D'accord.
Comment on va les intégrer?
Merci beaucoup. Alors, Élisée, en conclusion, quelle chance vous donnez? Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette opération réussisse?
On a parlé de l'implication. Ça
du
doit être à tous les niveaux. Les institutions, normal, parce que c'est l'État congolais qui a cette responsabilité, de la communauté internationale qui ne cesse de soutenir, mais de la société congolaise. Parce que la société a son rôle à jouer, cette société, parce que les enfants n'appartiennent pas à Joseph Kabila. Les enfants ont une père, mère et un père.
Oui.
Donc chacun de nous doit essayer de jouer sa partition. On peut donner autant de chances que l'on veut à cette troisième phase, mais si on a en amont, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas à bras le corps la problématique, ça sera d'échec en échec.
Merci beaucoup, et c'est par ici que la tribune de la presse de ce soir prend fin. Je dis merci à Guy Mandangou et Bob Landou qui étaient à la prise de son. La coordination était assurée par Kelly Kouté et Berry Franklin. Vous la présentez sous la supervision de Martin Seboujangoué. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapu.net.